Vous êtes sur RTL.
10h du matin.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
9h en ce 19 avril, c'est toute l'actualité bien sûr de ce dimanche avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Vous reconnaissez peut-être cette voix, celle de l'abbé Pierre à l'hiver 54. Il appelle alors les Français à se mobiliser pour aider les plus démunis. En 70 ans d'existence, Emmaüs n'a jamais demandé d'argent pour fonctionner. Mais là, cette année, avec l'épidémie du coronavirus, la situation est trop grave. Avec nous, Jean-François Marouzizac, le directeur général d'Emmaüs France. Bonjour, monsieur.
Bonjour Agnès.
Pourquoi cet appel, ce premier appel, vous n'en avez jamais fait auparavant chez Emmaüs ?
Oui, c'est vrai qu'après l'appel de l'abbé Pierre en 1954, jamais il n'y a eu d'appel à générosité du public. Eh bien, pourquoi ? Parce que la situation nécessite que ça se passe ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas si Emmaüs, avec cette crise du Covid-19, si Emmaüs, demain, pourra en fait encore subsister et subvenir à ses propres besoins et à l'accueil des 20 000 personnes dans l'année qu'il a en France.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Emmaüs se retrouve dans cette situation aujourd'hui ?
Eh bien, c'est une situation qui est singulière parce que nous sommes singuliers. C'est un modèle original et atypique, Emmaüs, d'accueil inconditionnel et qui passe par une philosophie qui est toute simple, qui est la reconstruction par le travail, des valeurs de dignité, d'autonomie et de reconstruction par le travail. Et de fait, eh bien, cette reconstruction par le travail, notamment, passe parce que le fondateur l'abbé Pierre nous a donné, à savoir eh bien, écoutez, le ramassage, la collecte d'objets, la réparation, la revalorisation et la revente. Et ça, depuis le 17 mars, en fait, tout est arrêté. Tout est à l'arrêt. Les activités de France, de l'essentiel, les groupes Emmaüs, sont à l'arrêt.
Et donc, il vous faut combien pour continuer cette aventure d'Emmaüs ?
Alors, cette aventure, en fait, dans l'immédiat, ce que nous, on essaye de collecter, c'est 5 millions pour pouvoir effectivement passer le cap au moins sur les trésoreries et sur ce qui permettra, en fait, de continuer à accueillir les personnes qui sont dans les centres Emmaüs au quotidien. Donc ça, c'est le premier objectif. Après, évidemment, je ne vous cache pas que ce qui n'est pas gagné actuellement, sur 2 à 3 mois, ça peut atteindre des sommes de 30 à 45 millions d'euros. Donc je ne vais pas attendre des Français et des Françaises ces sommes-là, mais dans l'immédiat, au moins avoir de quoi pouvoir assumer le quotidien des personnes qui sont encore chez nous.
Cet appel au don, Jean-François Marouzizac, vous l'avez lancé hier. C'est via Internet que l'on peut vous aider. Vous en êtes à combien ce matin ?
Alors tout à fait, c'est via le site emmausfrance.org que chacun, chacune peut donner. Et aujourd'hui, après une première journée, on peut dire qu'effectivement, cette institution qu'est Emmaüs, pour les Françaises et Français, eh bien, leur parle, puisque au moment où on a cette conversation, on est aux environs de 160-170 000 euros collectés. Donc il nous faut nous mobiliser, parce qu'il y a encore des Français qui ont besoin. Et je ne peux absolument pas me résigner à penser qu'Emmaüs, que l'abbé Pierre nous a légué, puisse éventuellement disparaître. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible.
Merci infiniment Jean-François Marouzizac d'avoir lancé cet appel sur RTL. Ce matin, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Emmaüs France. Merci.
Merci.
On le rappelle, pour faire un don, ça se passe sur internet emmaüs.fr.
Il est 9h03, des masques en tissu, lavables et distribués gratuitement aux Parisiens.
Anne Hidalgo, la maire de la capitale, promet 500 000 protections à ses administrés d'ici la fin du mois. Dans le journal du dimanche, elle précise qu'elle souhaite que les Parisiens et Parisiennes s'équipent dans les transports en commun à partir du 11 mai. Le 11 mai, cette date annoncée par Emmanuel Macron pour un déconfinement progressif. Édouard Philippe va bien sûr y revenir cet après-midi. Le chef du gouvernement prend la parole à 17h30 avec avant tout un but très pédagogique, Marie Monnet.
Oui, puisque le Premier ministre fera d'abord un point sur le front sanitaire. Comme il l'avait fait il y a 3 semaines, lorsqu'il avait détaillé les commandes de masques, justifié le choix du confinement, chiffres et graphiques à l'appui. Mais le Premier ministre abordera également la stratégie de déconfinement. Alors, pas encore de plan précis, clé en main. En revanche, Édouard Philippe doit présenter les options possibles qui sont sur la table et qui restent à départager. En attendant, ces ministres travaillent, se sont vus confier des plans d'action en fonction de leur périmètre. Jeudi dernier, ils ont déjà transmis à Matignon une liste de questions qui restent à trancher. Par exemple, sur les masques, comment augmenter la production nationale, comment s'appuyer sur les maires pour la distribution, comment les financer. En tout cas, le plan de déconfinement sera présenté par Édouard Philippe à la fin du mois. Un temps record pour une tâche immense. C'est très court, lâche un conseiller ministériel. Emmanuel Macron a annoncé la date du 11 mai. On en a pris acte et on s'est mis en ordre de marche. au pas de course.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Et dans le Bas-Rhin, Agnès, les EHPAD ouvrent à nouveau leurs portes.
Oui, annonce faite par le conseil départemental hier, des visites sous conditions, au compte-gouttes, mais c'est une très bonne nouvelle pour les résidents et leurs familles. Un retour à la normale qui va se faire progressivement en prenant de très nombreuses précautions, Yannick Collant.
Oui, les visites des familles deviennent possibles, mais resteront encore très rares. Pour l'instant, seule une poignée d'EHPAD dans le Bas-Rhin sont prêts à accueillir les proches dans des conditions de sécurité importantes. Frédéric Berry, le président du conseil départemental.
La protection de la santé de nos aînés, c'est notre première priorité. Mais le lien humain et les possibilités d'affection, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Petit à petit, progressivement, en faisant vraiment du sur-mesure et de la dentelle, ouvrir un petit peu nos établissements dans les situations où on sent que vraiment c'est important qu'ils puissent avoir un échange familial. Ce qu'on a imaginé, c'est qu'il y ait une vitre, hein, comme ça se fait aussi dans les commerces, hein, et là qu'il y ait une vitre pleine qui sépare la personne. Donc il faut pouvoir organiser cela pour vraiment protéger à la fois le pensionnaire, les personnels et protéger aussi les familles qui viendraient les visiter. On doit vraiment s'assurer d'une protection sanitaire.
Ces visites devront obligatoirement faire l'objet d'un rendez-vous à l'avance avec la direction de l'EHPAD et les établissements sont libres de participer ou non à cette démarche. Certains sont en fait trop occupés par la gestion de l'épidémie pour pouvoir accueillir individuellement les familles des résidents. Mais c'est en tout cas une première porte qui s'ouvre en France pour rompre la solitude de nos aînés.
Le reportage de Yannick Collant dans le Bas-Rhin pour RTL. L'épidémie continue à ralentir, mais la situation est toujours très préoccupante en France. 642 décès supplémentaires en 24 heures. Le bilan est désormais de 19 300 personnes emportées par le Covid. 5 833 patients se trouvent ce matin en réanimation.
Et d'ailleurs, la situation dans le sud de la France suit cette courbe nationale. Coup de projecteur sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ce matin.
C'est avec vous. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Alors Hugo, le nombre de personnes en réanimation est-il en baisse chez vous ?
Oui, absolument. Il est en baisse. C'est flagrant quand on fait un tableau comparatif sur les trois dernières semaines. Il est passé de 420 personnes ces 15 derniers jours à 360 cette semaine. On a donc des lits de réanimation en hôpitaux qui se libèrent dans le sud, malgré une propagation de la maladie qui reste constante. Hein. 3000 personnes sont contaminées en moyenne toutes les semaines. Constant aussi le chiffre des hospitalisations aux alentours de 1800 depuis le 4 avril. Mais ça veut dire que ça tourne, que les services hospitaliers parviennent à tourner. Les dépistages se démocratisent. De plus en plus de dépistages drive sont proposés par des laboratoires aux quatre coins de la région, par des mairies également, en priorité sur ordonnance ou pour les soignants, voire pour tout le monde, comme c'est le cas à l'Institut du professeur Raoult à Marseille, qui affirme avoir dépisté plus de 78 000 personnes depuis le début de la pandémie. Ça ne rassure pas pour autant les personnels médicaux, toujours aussi inquiets de voir que certains bafouent le confinement pour profiter du soleil. Et puis enfin, on constate que l'Agence régionale de santé suit les EHPAD de plus près au quotidien désormais, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines.
Derrière la situation sanitaire, Hugo, la situation sociale qui inquiète les autorités et les oblige à réagir.
Oui, parce que les associations sont submergées, très clairement. Hein. Beaucoup de dons, c'est vrai, de la part de particuliers, mais il y a encore plus de colis alimentaires à distribuer. Alors voici quelques exemples. Hier, à Marseille, des particuliers ont distribué près de 15 000 masques au personnel soignant qu'ils ont eux-mêmes fait venir de Chine. Dans le Vaucluse, des chèques-services ont été distribués à 1600 SDF. Et puis dans le Var, des dispositifs d'assistance pour les femmes victimes de violences conjugales ont été mis en place. Tout ceci afin d'éviter qu'il n'y ait trop de victimes collatérales au coronavirus.
Hugo Hamelin, direct de Marseille pour RTL. Merci Hugo, vous parliez de femmes victimes de violences conjugales. Elles sont beaucoup plus nombreuses que d'habitude à se manifester. La plateforme du numéro d'urgence, le 3919, a reçu 5 fois plus d'appels depuis le début du confinement. Un chiffre donné par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes.
Et les 9h09, vous restez bien avec nous. On va aller en Italie dans un instant car des élus montrent le mauvais exemple. Près de 200 personnes se sont réunies pour rendre hommage à un maire décédé du coronavirus. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, la suite du journal en Italie. Un déconfinement progressif doit débuter le 4 mai, à condition que les habitants respectent, Agnès, bien les règles de confinement.
C'est pas gagné. Dans une commune près de Naples, 200 personnes se sont réunies pour assister aux obsèques du maire, lui-même emporté par le coronavirus. Évidemment, ce type de comportement pourrait engendrer de nouvelles contaminations, Anne Lenière.
De la musique, des applaudissements nourris, des ballons de baudruche lancés vers le ciel. Voilà comment plus de 200 personnes ont rendu un dernier hommage au maire de la ville de Saviano. Même le maire adjoint a ouvertement violé les mesures de confinement en suivant le cortège funèbre au motif que le défunt, emporté à l'âge de 66 ans par le coronavirus, était un homme très aimé. Jusqu'à présent, la région de Naples a été nettement moins touchée par l'épidémie que celle du Nord, mais une telle foule pourrait faire de la ville de Saviano un nouveau et puissant foyer de contamination.
Anne Lenir, la correspondante de RTL en Italie. Au Canada, une maison de retraite en banlieue de Montréal compte 31 morts en pleine épidémie du coronavirus. Mais ce n'est pas uniquement la maladie qui a provoqué cette hécatombe. Le personnel soignant qui avait peur d'être contaminé a carrément abandonné les résidents pendant plusieurs jours. Quelques tensions cette nuit en banlieue parisienne, à Villeneuve-la-Garenne précisément. Elles ont éclaté, ces tensions, après un accident de moto impliquant une voiture de police. D'après des témoins, un agent aurait volontairement ouvert la porte du véhicule pour faire chuter le conducteur. Celui-ci souffre d'une fracture ouverte à la jambe. Le calme est revenu un peu après 23 heures. Aucune interpellation n'a eu lieu.
Et puis, il faut le dire, Agnès, pour les Français, le confinement ne rime pas avec canapé.
Mais oui, depuis qu'ils ne peuvent plus sortir ou sous conditions. Ils se sont adaptés selon le sondage Odoxa pour RTL et Groupama. Nous sommes même plus nombreux à pratiquer une activité physique, Sylvain Charlet.
Un Français sur deux affirme avoir fait du sport depuis le début du confinement. 37% de ces sportifs le font de manière hebdomadaire, quand 27% réussissent à enchaîner plusieurs séances dans la même semaine. Le confinement n'a donc pas vraiment changé les habitudes des Français. En effet, début février, 51% des gens interrogés déclaraient avoir une activité sportive régulière. Confinés depuis un mois maintenant, 6 Français sur 10 avouent faire du sport par crainte de prendre du poids. Et pour atteindre cet objectif, les disciplines phares restent la musculation, le fitness et le footing. Le yoga a séduit 13% des pratiquants, quand 8% préfèrent danser dans leur salon. Au final, seulement 17% des Français affirment avoir découvert de nouvelles activités sportives.
Sylvain Charlet pour RTL. Vous voyez Stéphane, vous n'êtes pas le seul à vous avoir découvert le yoga, le flamant rose, le bébé cobra, le chien, tout ça, les postures.
C'était couru d'avance. Que les Français fassent du sport, ça doit faire plaisir à Michel Simès qui nous rejoint en direct. Bonjour oui, Michel.
Bonjour.
Ils se bougent les Français, c'est bien. Ouais, pas forcément allongés sur le canapé.
Ouais, et ça c'est très bien. On va en parler tout à l'heure bien sûr dans l'hebdo avec Christophe Brun. On parlera également du confinement pour les personnes fragiles. Et puis on parlera des couples. On verra un petit peu sur le plan de la sexualité. Je voudrais pas faire du racolage, mais quand même, on va parler de la sexualité pendant le confinement.
On vous retrouve dans 2 minutes, bien sûr, on va nettoyer le studio. Agnès, bien sûr, on précise aux auditeurs qui vont pouvoir retrouver...
C'était un peu bizarre, là.
Oui, nettoyer le studio, je respire. Agnès, on précise aux auditeurs, donc, que sur RTL, le site de RTL2, ils peuvent retrouver, bien sûr, l'essentiel du concert de la nuit, événement planétaire tout en virtuel, organisé par Lady Gaga. Il n'y avait que du beau monde, avec Lady Gaga, Stevie Wonder, les Stones, Angèle ou encore Paul McCartney. Well, Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage.